BFM Bourse, on refait la séance.
Éric Lewin pour Bourse Direct également. Rebonsoir. Bonsoir Éric. Ravi de vous retrouver.
Bonsoir à tous.
D'abord l'ambiance globale, on va rentrer dans le détail des valeurs dans un instant, mais l'ambiance globale là en ce 7 juillet sur les marchés, on n'est pas encore dans la phase de publication des entreprises, ça va finir par arriver, mais on est dans une espèce d'entre-deux. Comment vous sentez l'état des marchés là Éric?
Bon écoutez, il faut vraiment attendre les publications. Je vous rappelle qu'on attend notamment plus 20% sur les BPA, bénéfices par action, du deuxième trimestre aux États-Unis. Il n'y a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent si c'était le secteur de la défense dont on va parler. Donc ce que j'ai envie de vous dire moi, c'est que bon, ça peut continuer tranquillement à consolider sans que ce soit très important. À noter demain quand même, il faut en parler, il y aura des publications des trimestriels de Samsung, le groupe sud-coréen qui gagne 165% en bourse depuis le début de l'année. Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'il pourrait annoncer une multiplication par 18 du résultat d'exploitation au titre du premier trimestre. On suivra ça dans la nuit, on attend un chiffre d'affaires en hausse de 127%, donc les attentes sont déjà tellement élevées qu'à la moindre petite déception, ça pourrait être compliqué, mais à part ça, franchement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Si c'était bien évidemment, j'ai oublié d'en parler, SK Hynix, je ne sais pas si vous en avez parlé, le numéro 2 du secteur coréen, qui vient à Wall Street en fin de semaine, donc c'est deux événements que je vais regarder cette semaine.
Exactement, on connaîtra a priori jeudi le prix d'introduction sur le marché américain de SK Hynix, qui sera coté à Wall Street sous forme d'ADR. Antoine?
Ça va être amusant. On parlait de SpaceX comme l'éléphant balancé dans la piscine. Là, ça va être un diable de Tasmanie balancé dans les pattes des traders, parce que c'est une extrême volatilité. Et encore une fois, il ne faut pas oublier que les fabricants de mémoire vive ont connu un cycle très très haussier au début des années 2000, que tout s'était écroulé. Donc il risque d'y avoir un track record assez négatif, et en tout cas de l'anticipation de volatilité, ça c'est sûr, et encore plus de concentration sur cet indice Nasdaq 100, très orienté semi-conducteur, avec tout ce qui est Nvidia, tout ce qui est Micron, etc.
Ouais. Le CAC 40, parce que c'est vrai que c'est une phase de marché assez faible, Eric, en ce moment, mais le CAC 40 était quand même ce matin à peine 1% de son plus haut historique, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri, là, cette semaine, de célébrer un plus haut.
Mais à condition que ça soit bien du côté de Samsung. Je vais vous dire très honnêtement, qu'on fasse plus haut maintenant ou plus haut après, c'est pas très important. Ce qu'il faut essayer de voir, c'est quels pourraient être les catalyseurs à la hausse. Je suis pas sûr que les résultats des entreprises en Europe soient vraiment le catalyseur. Moi, comme je vous l'ai dit, on en parlait la semaine dernière dans le club, je pense que ça va être les fusions-acquisitions qui vont animer la tendance au cours du second semestre. Et il faudra faire vraiment du stock picking. C'est le mot-clé pour moi dans les 6 mois qui viennent.
Alors, on y va dans les fusions-acquisitions parce que ça commence à sérieusement s'agiter. Safran, donc, out. C'est finalement Thales qui va reprendre Exail en proposant 134 € par action. Ce soir, Exail a progressé, mais sous les 134, sous l'offre de Thales, les actionnaires achètent à moitié. Plus 2% Exail à seulement 125,10 €. Comment vous interprétez ce signal-là, le fait qu'on n'atteigne pas l'offre à 134 de Thales?
Écoutez, d'abord, ce qu'il faut lire quand vous lisez tous les communiqués, l'OPA aura lieu au plus tard début 2028. Donc ça veut dire que certes, la famille Gorgé va vendre sa participation à Thales, donc ça c'est 134 €, mais le temps que l'opération se mette en place, on peut mettre encore un an et demi. Et donc si vous voulez, c'est pour ça que le titre est autour de 125-126 €. Ça ne veut pas dire du tout que les investisseurs ne croient pas à cette opération, mais c'est souvent le cas de figure quand il y a une OPA qui va être lancée dans 18 mois, parce qu'on a le sentiment c'est pas parce qu'ils rachètent les gorgées qu'ils vont lancer l'OPA demain. Sinon, sur l'opération en tant que telle, écoutez, il y a un retournement de tendance fantastique. Je regardais le cours d'Exail Technologies. Il y a 15 jours, on était à 90,50 € tout simplement parce qu'il y a eu un désaccord avec le principal créancier du groupe qui s'appelle ICG sur un problème de valorisation. Ce qu'on peut dire sur cette opération, mon cher Guillaume, c'est que Thales acquiert un actif pas bon marché quand même, parce que c'est une VS sur EBIT de 24 sur 2027. Mais eux disent, des gens de chez Thales, que l'effet sera relutif dès la première année. Il faut bien comprendre quand même que le marché mondial de la lutte sous-marine robotisée est un marché exponentiel. La taille pourrait être multipliée par 8 d'ici 2030 à 700 milliards d'euros. Et franchement, quand vous voyez Exail Technologies, c'est quand même une pépite, puisqu'en 2019, depuis 2019, le carnet de commandes a été multiplié par 10 à plus d'un milliard d'euros. L'opération est logique et ça m'amène à dire que dans ce secteur de la défense, ça pourrait continuer dans les opérations financières.
Oui, et c'est intéressant, c'est qu'il y a une opération miroir de l'autre côté des États-Unis qui est à peu près équivalente. Antoine, là, Thales rachète Exail, spécialiste des drones sous-marins. Aux États-Unis, vous avez repéré un peu la même chose.
Mais en plus, avec un montant similaire, on est à 3,5 milliards de dollars. C'est Lockheed Martin qui rachète Ultra Maritime, qui est un groupe spécialisé dans les technologies de défense maritime, comme son nom l'indique. Et c'est un petit peu le même mouvement qu'on peut observer de temps en temps cyclique autour du secteur de la santé, avec la Big Pharma qui s'intéresse à des biotech qui ont des produits intégrés, qui sont vraiment spécialisés sur un certain nombre de secteurs. Là, voilà, ils veulent des technologies éprouvées, quitte à payer cher. C'est un mouvement intéressant, c'est un phénomène de concentration qui est intéressant, parce que pour les entreprises de plus petite taille, voilà, il va y avoir des grands groupes de défense diversifiés qui vont vouloir avoir un accès direct à un certain nombre de technologies, vite fait, quitte à payer un petit peu cher, et ça pourrait être le chaînon manquant au dynamisme du secteur de la défense qu'on déplore un petit peu en ce moment.
C'est ça, exactement. Et vous disiez en préambule tout à l'heure, Eric, que vous croyez au rebond du secteur de la défense pour la suite ou pas ?
Mais évidemment, en fait, si vous voulez, on a eu 3 années exceptionnelles, donc une croissance de l'ordre de 200%, mais les carnets de commandes débordent. Moi, je regardais Rheinmetall, ils ont 8 années de carnet de commandes. Donc, ok, ça a un peu baissé cette année, même pas mal, parce que il y a eu l'Allemagne qui a refusé sur le fameux contrat de frégate. Mais enfin, attendez, c'est quand même pas catastrophique. Et puis, il y a le sommet de la haie, je vous rappelle, je crois qu'il y a un sommet de l'OTAN qui va démarrer. En juin 2025, les 32 alliés de l'OTAN avaient dit qu'ils voulaient atteindre 5% du PIB dans la défense en 2035 en termes de défense. Donc, pour moi, il y a une tendance de fond qui veut dire qu'on a besoin de plus en plus d'industries de défense. Alors c'est sûr que depuis le début de l'année, quand on regarde les perfs, à part Safran qui fait plus 20, mais Safran c'est pas complètement de la défense, Thales fait plus 5,5%, Dassault Aviation fait plus 13%, mais moi je pense qu'après cette vague de petites consolidations, ça reste vraiment un secteur à avoir en portefeuille, notamment en France. Pour une fois, on a quand même quelques petites pépites françaises, on avait Exel Technologies, il y en a d'autres.
Ouais. Et alors, au-delà de ce secteur de la défense, on voit aussi dans l'aéronautique, dans l'aérien, pour être plus précis, un autre mouvement de concentration. EasyJet gagne 9% ce soir parce qu'EasyJet donne son accord de principe à une OPA améliorée de Castle Lake qui valoriserait EasyJet 6,4 milliards d'euros. Hein, c'est pas en euros, mais voilà, traduit et converti en euros, ça donne ça, 6,4. Plus 9% ce soir EasyJet. Est-ce que ça va continuer de monter, Eric?
Bah écoutez, non, alors là, je crois que c'est la cinquième offre de rachat de Castle Lake qui est un fonds. La valo maintenant, on est 5,2 milliards de livres. C'est la cinquième proposition. A priori, cette dernière offre est acceptée par Stelios Agiounou, qui est le fondateur d'EasyJet, qui a 15,3% du capital. Le groupe n'était pas quand même dans une forme éblouissante, puisque sur le premier semestre, ils avaient perdu 436 millions d'euros. Mais ce qu'il faut dire quand même sur EasyJet, ce qui est intéressant, c'est la valeur comptable de la flotte de 361 avions, dont la moitié en propre, s'élève à 5 milliards de livres, et donc c'est la capitalisation actuelle. Ce qu'on peut dire, c'est que EasyJet est un groupe qui souffre, qui réussit bien depuis 3 mois avec la spéculation, plus 72%, mais sur 10 ans, c'est pas bizance, avec moins 43%. On a le sentiment quand même que cette offre pourrait marcher. Maintenant, après, que va faire Castle Lake? Est-ce qu'il n'y aura pas une vente par appartement? On sait que c'est un fonds qui a l'habitude de vendre, de racheter. Je crois qu'ils étaient dans SAS avec Air France à un moment, dont ils sont sortis. Donc, attendons de voir, mais j'ai le sentiment que cette dernière offre est la bonne. Juste un mot, mon cher Guillaume, pour revenir un tout petit peu sur la défense. Je pense qu'on peut jouer encore la défense à Paris avec Exosense, qui certes vaut 30 fois les bénéfices, mais à un moment ou à un autre, il pourrait y avoir une opération, parce qu'on a toujours HLD qui a 18% du capital et qui pourrait être amené à vendre. HLD, je vous rappelle que c'est un fonds. Et puis il y a Parrot, on peut jouer Parrot pour jouer le secteur de la défense. Pourquoi ? Alors Parrot, plus 45% depuis le début de l'année, parce qu'ils ont une activité micro-drone. Hein. C'est pas les gros drones, mais c'est des micro-drones qui représentent 76% du chiffre d'affaires. Et qu'est-ce qu'on a vu depuis 6 mois ? L'armée finlandaise qui a acheté des micro-drones, et puis l'agence de soutien et d'approvisionnement de l'OTAN. Donc vous voyez, il y a deux petites pépites encore. Alors, c'est pas comme Exel Technologies, mais ces deux valeurs me paraissent quand même très intéressantes encore au cours actuel.
Tout à l'heure dans Valeurs Ajoutées, nos experts du jour Métis Gestion sont eux nous indiquaient être eux à l'achat sur Lumibird, un fabricant de lasers, alors pas pour les lasers intergalactiques, non des lasers du quotidien, très utiles. Ils nous ont expliqué le métier de Lumibird et son potentiel. C'était dans Valeurs Ajoutées séquence à retrouver en replay sur l'application BFM Business. On revient bien sur terre là avec Vinci, les grosses infrastructures. Vinci remporte 3 contrats de long terme. Bon, comment vous regardez cette valeur, Vinci? On est vraiment dans le dur, là, c'est le cas de le dire. On en parle rarement. Est-ce que c'est une valeur que vous appréciez dans votre scope, Eric?
Bah écoutez, oui, alors ce qu'on peut dire sur les contrats, bon, ça reste, il y a 3 contrats via la filiale de Vinci Construction en Grande-Bretagne qui s'appelle FM Conway. C'est quand même des contrats tout petits puisque c'est 68 millions d'euros pour les 3 contrats. Oui, écoutez, pour moi Vinci, c'est quand même la valeur défensive par excellence. Alors, c'est sûr que le dernier chiffre était pas extraordinaire dans la publie parce qu'il y avait un trafic qui reculait dans les aéroports et les autoroutes, mais enfin, c'est un dossier tranquille, ça gagne 6,5% depuis le début d'année, ça vaut 13 fois les bénéfices. Faut pas mettre 10% 5% de son portefeuille sur Vinci, mais on n'est jamais vraiment déçu sur cette entreprise. Il n'y a jamais non plus un bêta énorme, c'est-à-dire elle fait jamais des performances, mais si vous aviez acheté du Vinci il y a 5 ans, vous auriez eu 40% sur 5 ans, en annualisé, ça fait 8 à 10%. Donc c'est mieux que du monétaire, c'est mieux que certaines obligations. C'est un dossier qu'il faut avoir en portefeuille. Voilà, qui ne déçoit strictement jamais, mais qui n'est pas parmi les plus sexy de la côte parisienne.
D'accord. Les plus sexy des dossiers en Europe, c'est quoi pour vous aujourd'hui?
Bon, écoutez, si on veut jouer des trucs sexy, faut jouer du Stellantis, ou des valeurs. Non, faut jouer de l'automobile dont personne ne croit. Si vous voulez vraiment faire de l'argent, il faut essayer de jouer des valeurs dont personne ne croit, du luxe avec un Hermès à 1650, du Stellantis autour de 5 €. Ma petite pépite, j'allais en parler, mais je vais devancer sur Rémy Cointreau.
Non, oui. N'allez pas dans le détail de Rémy Cointreau. Oui. Oui.
Non, mais si vous voulez faire un effet de levier, si vous voulez faire des effets de levier intéressants, il faut faire des valeurs dont personne ne veut.
D'accord.
Vinci, tout le monde connaît. Dire aujourd'hui j'achète du Stellantis, ça paraît complètement fou dans la situation actuelle, parce que plus personne ne veut l'automobile. Dire je veux acheter du Renault, c'est la même chose. Donc si vous voulez vraiment avoir un effet de levier, un risk reward, comme on dit dans les milieux anglo-saxons intéressants, bah, il faut acheter du Stellantis. Je vous rappelle que Stellantis, ça vaut 5 €, ça fait 47% depuis le début d'année, 69% en 3 ans. Donc s'il y a un retournement à faire, c'est sur ce genre de dossier.
Ouais, bah, pourquoi pas. Et votre pépite, c'est Rémy Cointreau alors?
Bah écoutez, oui, Rémy Cointreau, pourquoi? Parce que Rémy Cointreau, moins 70% en 3 ans, ils sont, vous savez, numéro 2 mondial du cognac. Bon, on sait que depuis 3 ans, c'est compliqué. On a une marge opérationnelle courante qui est passée de 28 à 18 en 3 ans. Le groupe regagne quand même des parts de marché aux États-Unis et en Chine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez un stock qui représente 1,8 milliard, hein, le stock de cognac, notamment les cognacs Rémy Martin et Louis XIII, qui sont vraiment le premium. 1,8 milliard, c'est quasiment la capitalisation actuelle du groupe. Ça vient de reprendre quand même 5% en l'espace d'un mois et 15% en l'espace de 3 mois. Et puis, c'est pas cher. Moyenne historique, on était à 34. Là, on est sur un PER de 20. Donc là, vous voyez, c'est typiquement la valeur. Si jamais, du côté de la Chine, ça va un petit peu mieux en termes de consommation, s'il y a des mesures de relance budgétaire, et si aux États-Unis, ça va également un tout petit peu mieux, l'effet de levier, là également, est extrêmement important. Et autour de 43-45 €, on peut vraiment faire un soleil, gagner 30 à 40%. Donc si on veut des valeurs sur lesquelles il y a un effet de levier important, je place Rémy Cointreau, qui reste quand même un dossier solide. Ça reste quand même 17% de rentabilité opérationnelle courante. On n'est pas des groupes en perte, c'est des groupes quand même extrêmement bien gérés.
D'accord. On attend beaucoup des publications des entreprises. Vous êtes plutôt sur les small et mid-cap en l'occurrence. Eric, on va bientôt rentrer dans cette phase de publication, toujours au cœur de l'été. C'est un peu ingrat pour beaucoup d'investisseurs ou d'actionnaires qui doivent rester mobilisés fin juillet, début août. Mais voilà, sur les small et mid, vous êtes plutôt de plus en plus optimiste. Vous vous dites attention quand même, parce qu'on est à moins d'un an maintenant d'une présidentielle et généralement, ce genre de période n'est pas favorable aux small et mid.
Alors, la période n'est pas très favorable au small et mid avant une présidentielle, sauf que l'indice fait pas grand-chose depuis le début de l'année, on gagne entre 2 et 4%, et que dans le monde des small et mid, la chance qu'on peut avoir, c'est que vous avez beaucoup, beaucoup de patrons de boîtes qui sont en bourse depuis 15 ou 20 ans, et donc là encore, comme on a vu avec Exel Technologies, il va y avoir des opérations financières. Donc moi, je fais jamais de prévision sur les small et mid, parce que c'est compliqué de dire l'indice va gagner 10 ou 15%, parce que vous savez que ce n'est pas un indice équipondéré, par exemple, dans le monde dans le small et mid, c'est OVH la plus grosse capitalisation. Donc si OVH gagne 100% dans l'année, on peut avoir un CAC small et mid qui gagne 10%, mais ça ne veut pas dire que tout le monde achète des small et mid. Moi, je suis plutôt dans une logique de concentration. Je pense que s'il y a deux secteurs à retenir, c'est les équipementiers automobiles, où il devrait se passer quelque chose parce que le secteur a des difficultés, et le secteur informatique qui a été survendu. Je pense notamment à une valeur comme Neurone, qui doit valoir en termes de valeur d'entreprise rapportée aux résultats opérationnels courants 5 fois, tout simplement parce que comme on a eu la SaaS Apocalypse pour les éditeurs de logiciels, on a eu l'ESN Apocalypse, comme si plus personne n'allait travailler avec des ESN, alors que je ne cesse de le dire, pour moi, c'est un accélérateur de croissance l'IA, c'est-à-dire que les ESN qui mettent de l'IA, eh bien, ça accompagne leur croissance et même ça les développe, et je ne crois pas du tout, quand ce sont des gros ESN, à une cannibalisation.
Eric Lewin, merci beaucoup. Stratégie de l'action pour Bourse Direct. Bonne fin de journée, Eric.